Le jour où on m'a dit va falloir faire tout seul, j'ai d'abord fait la gueule, puis j'ai ri de ma gueule. Tous ces mots qui dégueulent, ça fait une drôle de barre, pas enraser les murs. Au début, pas trop sûr, un moment faut y aller. Au milieu de la rue, y a plus à hésiter. Le trottoir est de marbre de l'autre côté. Le jour où j'ai failli retourner dans la tombe, le temps était aux bombes et je les ai bravés. Les gens étaient en nombre à guetter ma rechute. Nous n'étions que des ombres devant le même but. Dans les ruelles sombres et dans les bars à putes, au milieu des décombres et des bêtes en rut. Le jour où j'ai failli m'imaginer poète, je n'étais moi aussi après tout que bête. Mais j'ai tenté le jeu et me suis en...
Bonsoir.
L'équipe imaginaire se remplit un petit peu là, d'émission en émission. On a Patrice avec nous ce soir, qui revient du cinéma, comme d'habitude.
Bah, pas ce soir, mais bon.
T'as eu le temps de voir deux films au cinéma?
Ah bah, dans les semaines dernières, oui, j'ai eu le temps de voir deux films. Oui.
Et alors, c'était quoi?
Bah, c'est Mickey 17 et Le secret de Khéops. Ce qui n'a rien à voir, c'est très très différent, mais chacun à sa manière.
Très bien. On en parlera en deuxième partie d'émission, parce qu'avant, on aura une interview au téléphone, Sébastien.
Oui, alors avec Gianni Luca Roberto, de Suisse, et qui va être invité au salon Imaginaire, donc pour présenter sa saga de super-héros et de super-vilains en littérature interactive.
Super. Voilà. Et puis, en troisième partie d'émission, on parlera un petit peu de The Electric State, le film le plus cher, je crois, de l'histoire de Netflix. Enfin, produit par eux, non?
320 millions, mais en comptant aussi les salaires des acteurs.
Hein. Ah oui, toujours.
Pas n'importe
toujours.
Lesquels. Puis je vous parlerai aussi du roman graphique et puis du jeu de rôle dans le même univers. Et on commence en musique le temps qu'on chope Gianni au téléphone. On s'écoute un morceau que j'étais content de réentendre dans ce film.
They mean what they say, mother. Mother, can you keep them in the dark for a while? Can you have them from the wedding world? Oh, mother. Father, gonna take your daughter out tonight. Gonna show her my world. Oh, I'm
Danzig avec Mother en 1988, donc un morceau que j'étais content de réentendre dans The Electric State, le film que j'ai regardé hier. C'est la scène où on voit la première apparition de Chris Pratt. Mais bon, on reparlera de tout à l'heure parce que là, on devrait avoir Gianni au téléphone. Allô ?
Allô ?
Oui, bonsoir aux auditeurs de la radio G sur 101.5. Comment ça va ?
Ça va bien et toi,
oui, ça va
bien
d'aller ?
Merci beaucoup.
C'est gentil de nous rappeler notre fréquence. Je l'ai dit
bah,
peut-être pas assez.
Hein, bah, je vous écoute. Hein.
En podcast.
Ça, c'est gentil aussi.
Donc, Gianni, comment ça va donc
Ah, je vais bien, merci beaucoup. J'ai la pêche.
Ouais, on voit ça et ça tombe bien, puisque Imaginaire aussi, on l'a ce soir. Donc, pour résumer pour nos auditeurs romains, donc, j'ai Gianni Luca Roberto, aussi surnommé Aura. Comme le nom de sa saga de super-héros, de super-vilains. Donc, je rappelle que le quatrième tome est sorti tout récemment, le 20 février 2025. Et donc, on l'aura en présentation, ainsi que les trois premiers, au Salon Imaginaire, les 26 et 27 avril. Pour l'instant, je ne dis pas de bêtises, Gianni ?
Ah, c'est super ! Nickel ! Merci beaucoup.
Donc, on va commencer donc à voilà faire connaissance pour aussi que les personnes donc découvrent qui tu es au travers de ton œuvre. Là, on en est donc au quatrième tome. Et en fait, Aura, donc, c'est une saga Romain et Patrice qui date depuis 2022, la sortie du premier tome. Et comment fais-tu, Gianni, pour avoir un rythme de parution d'un tome par an, sachant que c'est tout en couleur et tout hein.
Je m'arrête jamais, en fait. J'écris, je vis, je respire Aura. Il n'y a pas vraiment de secret. Hein. Les personnes, ils font du sport, ils ont des hobbies, moi, je fais du Aura. C'est un petit peu mon enfant, je m'en occupe.
depuis 2022. Hein.
Oui, alors, c'est clair que c'est... Aura, c'est une concrétisation d'un rêve ado-adulte. J'avais 23 ans, j'ai écrit l'histoire en entier il y a 20 ans. Et puis, le pitch, c'est un petit peu l'histoire de 7 héros qui luttent contre l'Empire Khazar. C'est à notre époque, donc c'est une histoire contemporaine, saupoudrée de magie. Voilà, un petit peu.
Et d'imaginaire.
Oui, forcément. Voilà, exactement. Ça, c'est les lecteurs.
Donc là, je vois Patrice qui est déjà plongé dans le deuxième tome d'Aura.
Je trouve que déjà, la présentation est très originale par rapport au livre du même type en général, parce que là, on a du visuel, on a des petites icônes, on a des réponses variées en couleurs.
De la couleur, ouais.
Il y a des dessins.
Dans les polices de caractère.
Il y a des dessins terribles.
Au niveau des,
c'est super, oui.
Au niveau des couleurs, justement, donc, moi, ce que je voudrais insister, c'est sur la signification un peu des couleurs, des couvertures et des pages. Là, Patrice, il a donc le tome 2. La couverture, c'est rose pur. Et l'intérieur du fond des pages, c'est rose pâle. Et rapidement, tu peux nous dire qu'est-ce que ces couleurs définissent sur la teneur de chacun des tomes, en noir et blanc, donc un par un.
D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque livre a son propre caractère. C'est comme les personnages à jouer. Les couleurs, c'est un petit peu un reflet des histoires qu'elles racontent. Donc le tome 1, c'est une couleur un petit peu parchemin, sable. Ça rappelle en fait les mythes historiques, les siècles. C'est associé à la tradition et la sagesse et l'authenticité. Et ça évoque aussi les plages et la chaleur humaine. Et puis le tome 2, c'est rose un petit peu bonbon. Ça évoque la féminité, la tendresse. C'est un hommage aux femmes, en fait. Power, c'est le power girl. Puis ça représente aussi la compassion et l'empathie. Et puis le tome 3, c'est du vert, en fait. Ça évoque l'espoir, l'équilibre, la renaissance, le renouveau. Et puis le dernier tome, c'est rouge sang. Ça, c'est l'énergie, la colère, le danger, puis la passion quand on est un petit peu impulsif, en fait. Voilà un petit peu jusqu'à présent ce qui est publié.
Alors, c'est intéressant parce que j'ai pas souvenir, en tout cas, d'avoir vu justement ce jeu sur les couleurs, déjà sur les couvertures, le fond de page, dans un autre livre-jeu. Et Romain, donc, a été étonné parce qu'il voyait également des passages en vert. En fait, ça correspond à des proverbes.
Oui, il y a plusieurs couleurs de caractères. Ouais.
Donc, le bleu, donc, c'est pour la narration. Le noir, c'est pour le dialogue. Le vert, pour les proverbes, qui peuvent être un peu comme des indices pour t'aider à faire un bon choix, donc, en fin de page.
Et, voilà, c'est aussi le rouge. Le rouge, c'est les dates et les endroits. Pardon, excuse-moi de m'avoir interrompu.
Non, c'est, tout est expliqué de toute façon dans les règles, les premières pages de règles. C'est un tutoriel express. Mmh. Et, en fait, en quelques pages, hop, on apprend à jouer, même pas en deux minutes, hop, tu prends le livre et tu le joues, sans dé.
Sans dé. Ça, c'est bien, ça.
Et c'est vrai, comme tu dis, Patrice, grâce au visuel, ça aide vraiment à jouer très facilement dans n'importe quel endroit. On peut même être dans le métro ou le tramway, comme on est à Angers. Donc. Et c'est adressé à tous les âges.
Moi, ça me plaît que ça soit sans dé, parce que, bah, je me rappelle, j'ai été au bout d'un moment, j'ai fait beaucoup de Donjons et Dragons, et au bout d'un moment, les dés, j'en avais marre, et je les lançais comme ça pour le principe, mais je continuais ma propre narration pour les joueurs.
Les vaches.
Voilà, bah, en fait, c'est exactement ça. J'ai supprimé tout ce que j'aimais pas quand j'étais petit. Et en fait, il n'y a pas besoin d'accessoires et il n'y a pas besoin d'internet. On a le livre et on joue. C'est comme un Game Boy portable sans batterie. C'est
bon. Est-ce qu'on a besoin d'un crayon?
Non, rien.
Ouais, tu peux. Moi, j'aime bien pour noter un peu ma progression. Ça, c'est pour les fans qui veulent voir si l'arborescence, elle tient bien le coup. Et je constate, pour avoir poncé donc notamment le premier aura, et il y a une interview de ma part pour Gianni sur sa chaîne Instagram, Aura Exploration, qu'il n'y a aucune erreur de renvoi. Parce que figure-toi, Romain, ainsi que Patrice, on a tout un staff qui est avec Gianni, dont quelqu'un qui est testeur, qui sera donc au salon. D'ailleurs,
testeur de quoi?
Alors, testeur du jeu libre.
Ah oui, ça.
Donc, ils seront quatre à venir au salon parmi le staff. C'est un staff qui est composé de 8 personnes. Et peux-tu me dire rapidement comment ce staff a été amené à grossir au passage d'un tome à l'autre?
Oui, alors on a démarré à 5. Aujourd'hui, on est 8, comme tu l'as dit, Seb. Merci beaucoup. Aura, c'est comme ma famille. Et ça grandit, et puis mes exigences, mes besoins aussi. Donc j'ai évolué comme l'univers d'Aura a évolué. Donc on a la superbe Julie Chandernagor qui, elle, supervise et fait les corrections. Elle me tape sur les doigts si c'est faux, en fait. Il y a Luciano Salese, lui, c'est l'illustrateur, celui qui fait les dessins.
Ils sont beaux, d'ailleurs. Oui.
Voilà, nous avons Brian Dossier qui, lui, justement, est le testeur du jeu. Donc une fois que le livre est corrigé, il est fini, c'est lui, il va faire tous les chemins, et puis il va revenir vers moi pour dire, voilà, là il y a un problème, là il n'y a pas de problème, cette icône ça va pas, faut la changer, etc. Et puis on sera les quatre sur le stand au salon. Voilà. Est-ce que je continue les autres ou je présente juste les quatre personnes?
Non, là c'était les quatre personnes, donc on aura le plaisir d'avoir pour imaginaire. Et donc j'en viens à parler donc de ta chaîne Instagram Aura Aventure. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent avoir plus de détails sur tous les membres du staff, on a une vidéo qui présente les héros justement de ce staff et de tes jeux livres. Et qu'est-ce qu'apporte en plus cette chaîne Instagram Aura Aventure à la compréhension de ton univers d'Aura?
En fait, je publie des news. Je publie tout ce que je peux pas mettre en fait dans les livres. Donc justement, il y a l'explication de l'Empire de Khazar, leur construction. Il y a les pouvoirs, il y a les héros, il y a un tutoriel. Et puis je fais des lives aussi. Donc j'explique des choses qu'on peut pas vraiment écrire sur les pages. Voilà.
Ok, donc. Et donc, on a parlé de la chaîne Instagram Aura Aventure. Là, je vais en venir aux mécaniques de jeu. Alors, j'ai noté qu'entre le premier et le deuxième tome, il y a quelques nuances. On a un nouveau type de couleur orange qui signifie les techniques de combat, les techniques magiques. On a au-dessus donc de l'icône joystick, lorsqu'on a à faire des choix, on a le mot « joue », ce qu'on n'a pas dans le premier tome. Et moi, je me demandais, en fait, à quelles évolutions, donc, en fait, on a petit à petit au fur et à mesure des volumes 2, 3 et 4 qu'on n'avait pas dans le premier. Et pourquoi ?
Oui, ben en fait, Aura, c'est comme un enfant. Hein. Au début, c'est un enfant, un ado, puis ça va devenir un adulte. Donc, on évolue avec. Il y a aussi le retour des lecteurs. Donc, dans le deuxième tome, on a voulu ajouter une clarté sur les techniques de combat. Donc, les personnages, ils annoncent leur attaque, en fait. C'est un petit peu comme dans les mangas. Et puis, on a la possibilité aussi de jouer les méchants. Et puis, on a ajouté aussi des fins alternatives dans le 2. Mmh. Voilà un petit peu les nouveautés du 1 par rapport au 2.
Et par la suite, en vue d'harmoniser l'ensemble de la saga, des rééditions sont-elles envisageables pour vraiment tenir compte de toutes ces évolutions qui visent donc à un confort de jeu optimal ?
Ben, pour l'instant, il ne faut jamais dire jamais, hein, donc peut-être un jour. Mmh. Mais pour l'instant, je veux garder le chemin parcouru. C'est un petit peu comme dans Aura, hein, quand on choisit le mauvais choix, ben, on revient en arrière et puis on essaye de s'améliorer. Puis ça fait aussi une espèce de cohésion pour nous dire ben, avant on était ça, maintenant on est devenu ce résultat-là. Ça prouve aussi que on a écouté les gens et puis qu'on essaye toujours de faire mieux. D'ailleurs, sur les autres tomes, on a aussi ajouté des maps, des cartes pour situer les personnages, ainsi que des récompenses sur des QR codes. Donc les gens, ils peuvent débloquer des choses et puis des récompenses, c'est des dessins dédicacés, des choses comme ça. Mmh. Et puis dans le tome 4, on a inclus Laura Musique. Donc il y a 22 chansons parsemées dans le livre, puis à la fin, ça fait un album. Et c'est pour immerger encore plus le lecteur dans nos histoires, en fait.
Bon, on voit que Aura, ça se bonifie depuis 2022, un peu comme un bon vin. Et je rappelle donc à nos auditeurs du 101.5 que Gianni Luca Roberto, il s'est auto-édité. Donc c'est vraiment un vrai travail de passionné. Et on voit vraiment qu'il tient à vraiment écouter ses lecteurs, à s'améliorer. Et qu'on a vraiment à faire un très 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 bon livre-jeu qui s'apparente à du roman interactif, mais avec pas mal de ludisme. Et j'en viens à parler un peu du type de structure qui est original en fait, puisque c'est composé en actes, comme des actes de théâtre. Un tome fait 5 actes. Et peux-tu un peu nous dire pourquoi en es-tu venu à structurer en actes ton histoire ?
En fait, les actes, pour moi, vu que c'était comme un jeu vidéo, c'est un petit peu un jeu vidéo arcade, les actes, pour moi, c'est des niveaux, des levels. Et à chaque fois qu'on débloque un nouveau chapitre, un nouvel acte, c'est comme si on a évolué dans le jeu, on est à un niveau de plus. C'est comme un RPG, donc à l'acte 2, on a le niveau 2, à l'acte 10, on a le niveau 10. Et c'est vrai qu'après, le jeu devient un petit peu plus difficile. Mais en réalité, c'est une illusion, hein. Il n'y a pas 5 actes, il y en a plus de 20. Parce que il y a plusieurs dimensions dans l'histoire, puisque nos choix nous amènent des petites histoires différentes en fait.
Mmh. Et puis on peut, selon les actes qu'on joue, interpréter un personnage ou un autre personnage, un super-héros ou un super-vilain, ou deux super-héros au choix. On en prend un et on peut reprendre un autre, et avoir un autre point de vue sur le déroulement donc d'une même scène.
Voilà, ou ailleurs, parce que plus on va dans le jeu. En fait, faut penser à si on est tous dans la même salle, on va vivre la même situation. Mais si les héros ou les méchants sont séparés, sont pas au même endroit, on jouera le même chapitre, mais pas au même endroit. Donc en fait, on joue deux chapitres différents. Voilà.
D'ailleurs, on va en reparler un peu plus tard là d'un acte en plus précisément. Et avant de conclure cette première partie, peux-tu nous dire un mot un peu des super vilains qui apparaissent en fait dans le tome 2 ? Je pense que c'est à partir de l'acte 8 qu'on peut commencer à jouer un super vilain. Qu'est-ce que tu as eu comme plaisir de faire jouer à ton lecteur joueur des super vilains plutôt que des super héros ?
En fait, pour moi, c'était important que les lecteurs s'identifient dans toutes les situations possibles. On a tous un petit côté sombre, un petit côté caché en nous. Et puis, vous n'êtes jamais posé la question, est-ce qu'un méchant, il est vraiment méchant, en fait. C'est un petit peu subjectif à chacun. Voilà un petit peu pourquoi.
D'ailleurs, Romain, les super vilains sont à l'honneur à l'Angers Geek Fest.
Oui, j'étais en train de me dire, c'est le thème de la conférence de Pierre-Marie, qu'il animera le 4 ou 5 avril, le samedi, de l'Angers Geek Fest, ouais, tout à fait.
Et là, on va passer, dis-moi, à un single qui est issu de l'univers d'Aura, le Grimoire. Peux-tu rapidement un peu nous situer pourquoi le Grimoire, pour que nos éditeurs comprennent?
Oui, bah en fait l'histoire commence par un personnage qui s'appelle Enzo qui va justement découvrir un grimoire. Puis ça va propulser en fait les aventuriers, les lecteurs dans l'aventure. Et puis les chansons c'est aussi une autre façon pour moi d'expliquer des choses que je peux pas dire dans le livre. Donc voilà, on a écrit. Après on a un aspect physique que les dessins, puis maintenant il fallait un petit peu de l'ambiance en fait. Voilà pourquoi il y a des chansons aussi.
Et à quels autres dérivés d'Aura peut-on s'attendre à voir présenté en exclusivité à Imaginaire en France?
Bah en fait, vous aurez la chance d'avoir des t-shirts, des casquettes, des coussins, peut-être des puzzles, et puis voilà, il y a un petit peu de tout. Donc voilà, on essaye vraiment de faire plaisir aux gens et quelqu'un qui par exemple n'aime pas lire pourra peut-être s'approcher plus de la musique. Puis ceux qui n'aiment pas la musique et pas lire, bah peut-être qu'ils pourront s'approcher aux habits. Voilà, on essaye de toucher un petit peu tout le monde avec l'esprit d'Aura en fait. C'est notre aura.
Aura verse. Voilà. Bah écoute, on va déjà toucher nos auditeurs en diffusant un de tes premiers singles, donc Le Grimoire.
Dans le noir.
Dans le noir.
Dans l'imaginaire sur le 101.5. On se retrouve tout de suite.
Plus grand pouvoir, ça m'obsède de rien.
alors, du coup...
Ouais, qui chante sur ce morceau?
Alors, c'est une voix artificielle.
Putain, elle gère.
Parce... Je vous explique, moi, je suis musicien depuis...
Ah oui, aussi.
Voilà, je suis... Oui, oui. Je suis musicien et DJ, et en fait, j'ai composé les paroles et la musique, mais j'avais pas trop le temps de réenregistrer des voix. Alors maintenant, on peut payer des licences où on écrit les paroles, et puis on peut se faire chanter nos chansons. Mais en tout cas, tout est composé, tout est écrit de ma part, et voilà, il y a juste la voix qui m'est prêtée.
On comprend pourquoi t'as pas le temps d'aller faire du sport maintenant.
Et si, il fait du bowling, il paraît.
Ah bah. Ah, mais c'est, ah, je confirme, le bowling, c'est du sport. Oui.
Donc là, on va parler brièvement de l'acte 8, qui figure dans le tome 2, un acte central. Et je rappelle à nos auditeurs du 101.5 qu'à l'acte 8, en fait, ça finit un premier arc d'histoire. L'arc va de l'acte 1 à l'acte 8 et ça s'appelle le grimoire et les élus. On a vraiment un peu cette patte manga, Patrice, avec les arcs. Comme tu disais, t'aimes bien le visuel qui rappelle un peu le manga. Et même au niveau de la narration, on a un peu cette structure en arc, un peu comme dans le One Piece que tu adores, Gianni.
Oui, alors moi, je suis très pirate, One Piece. Donc c'est vrai que j'adore un petit peu cet esprit humoristique, mais quand il faut être sérieux, on est là aussi. C'est un peu du Nicky Larson, on est farfelu et puis après on est sérieux quand il faut. Voilà.
Bah écoute, pour un peu le côté farfelu, on est servi dans l'acte 8. Ce que je rappelle donc, on a le choix entre un des super-héros, Fuji, dont le pouvoir c'est le feu. Et on a le général Lessif, donc qui est un super vilain. Donc le super vilain, on peut le jouer en Russie. Tandis que Fuji, on va le jouer à New York, qui est un peu sa ville. Et je disais pourquoi le côté un peu farfelu, parce qu'en fait Fuji, au tout début, donc il découvre un peu ses pouvoirs, et c'est quand même un sacré dragueur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce début d'acte, si on joue à Fuji?
Oui, alors en fait c'est un petit peu son bouclier, hein, ce côté farceur, dragueur, parce qu'en fait il est amoureux d'une autre héroïne qui s'appelle Féline, mais c'est son côté pour pas montrer un petit peu sa souffrance qu'il a eue quand il était petit. D'ailleurs son rêve c'est pas d'être policier, c'est pas d'être pompier, lui il veut devenir un dragon, d'où le titre Petit Dragon.
Dragon comme dans Bruce Lee?
Non, non, un vrai dragon, un reptile.
D'accord.
Un dinosaure, quoi. Voilà.
Bon, c'est original, dis-moi. Et là, quand j'ai joué Fuji, j'ai apprécié, parce qu'il y a un combat dans un grand muséum face à des étaripes, un peu les pirates à la solde de Khazar. C'est un peu la piétaille, mais quand même assez forte. Et ce qui m'a plu dans ce combat... C'est que il faut vraiment faire le bon choix entre soit on frappe au poing, soit on utilise son pouvoir, ou soit on utilise une arme blanche par exemple. Et en fait, le combat, vraiment, tu dois bien réfléchir par rapport à l'environnement et face au type d'ennemi que tu as, parce qu'autrement tu peux aller en déroute. Et lorsque tu introduis comme ça des combats, comme là dans l'acte 8. Qu'est-ce que tu as envie d'amener comme sentiment à ton lecteur-joueur?
C'est vrai qu'il faut avoir joué le livre 1 et 2 pour comprendre. Mais lui, il revient en fait, et c'est la première fois qu'il est héros. C'est la première fois qu'il doit sauver un musée avec des gens en otage. Et il ne contrôle pas bien ses pouvoirs, et le feu, comme on le sait, ça brûle. Donc c'est vrai que s'il utilise ça dans un musée, ça peut tout détruire. Donc il doit vraiment le lecteur doit vraiment être finaud afin de pouvoir sauver les personnages sans tout flamber en fait.
Sinon c'est comme
Cyclope. C'est vrai, là en fait moi je pense pardon excusez-moi j'ai pas voulu interrompre.
Patrice,
mais quand j'écris mon histoire Il y a beaucoup de choses réelles. Je vais voir ce que le feu peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Et on apprend un tas de choses aussi un petit peu scientifiques dans les livres.
Le personnage qui ne contrôle pas son pouvoir, c'est un peu comme Cyclope là, des X-Men, quand il retire ses lunettes, là, ça crame tout.
Bah, c'est sa première mission en réalité.
Ouais, bah Fuji, c'est un peu ça. Ouais. Ouais. Donc on voit que vraiment ces super-héros peuvent aussi s'inspirer d'autres super-héros connus. Et comme le rappelle Gianni, bah il faut faire preuve un peu de d'astuce aussi pour s'en sortir. Hein. C'est pas juste aller, je joue le bourrin. Donc ça, j'ai bien aimé. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Bah tu sembles confirmer un peu mon sentiment. Et lorsqu'on a joué là le super-vilain pour finir, par contre, moi. En fait, quand j'ai joué ce super vilain, j'ai voulu lui introduire un peu d'humanité. Mais en fait, Anna Patrice me dit que c'était pas ça. Bah, je me suis fait avoir, mais pas vraiment. Parce qu'en fait, Romain, tiens-toi bien. Mais même si on perd dans Aura, eh bien, on peut débloquer des choses comme un flashback et on peut apprendre des choses sur le personnage, voire sur d'autres personnages qu'il a côtoyés. Donc, il n'y a pas véritablement d'échec. Est-ce que tu partages un peu cette impression que j'ai eue en jouant le général Lessif, Gianni?
Oui, alors en fait, ce que je voulais faire ressentir au lecteur, c'est que c'est comme dans la vie. Parfois, il faut savoir perdre pour revenir plus fort et avec de l'expérience. Et dans Aura, en fait, lorsqu'on perd, ben, quand on refait les chapitres, ben, on se pose la question, mais attends, je sais maintenant une vérité sur ce personnage. Si je fais ça, ben voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le général Lessif, c'est le général de la destruction. D'ailleurs, dans le tome 1, il est considéré comme le cauchemar. Et lui, c'est le tank, hein, c'est le bulldozer. Donc, et puis les deux personnages, Fuji et le général Lessif, c'est pas par hasard qu'on les choisit les deux. C'est deux personnages quand même impulsifs. Parce que le feu, c'est un petit peu la tortue ninja rouge. Qui va, avec la colère, se faire dépasser par les sentiments, en fait.
Donc, c'est intéressant parce qu'on voit que rien qu'avec un seul acte là, dont on vient de parler, il y a vraiment toute une structure. On voit que tu pars pas dans le vide et en même temps, il y a une originalité. Et après, les autres actes aussi ont leurs propres aussi histoires et originalités. On voit vraiment que tu cherches toujours à apporter une petite surprise. Bon, j'ai fait les deux premiers tomes, qu'il n'y a pas dans l'acte d'avant ou l'acte d'après.
Bah, j'essaye de toujours. J'aime pas la répétition, j'aime pas les schémas, mais il y en a quand même. Il n'y a pas de secret, il y a quand même des schémas. Mais oui. Ouais.
Ok.
En fait, Fuji revient dans le monde réel, et puis. Le général Lessif est dans son monde réel et puis ces deux mondes sont bien différents.
Ok. Eh bien, moi, j'invite nos auditeurs et les visiteurs donc qui viendront au Salon Imaginaire d'aller à ta rencontre et de pouvoir donc s'émerveiller comme Patrice et Romain du très très beau visuel de ces livres-jeux que je recommande chaudement. Et j'aurai le plaisir aussi de les avoir en dédicace à cette occasion, grâce à ta venue.
De l'entier. Merci beaucoup.
Et Gianni, tu viens pas tout seul, hein, on a bien compris.
Il vient avec trois autres personnes.
On ne pourra pas les rater. Il y aura Julie Chandernagor, Brian Dorsière et puis Luciano Salese qui est le dessinateur.
Super. Ouais. Bah écoute, je te remercie et puis je te dis donc.
Alors si on veut essayer de trouver les livres qu'on n'attend pas dans un mois et quelques pour le Salon Imaginaire, on les trouve où?
Alors sur internet, c'est amazon.fr. Voilà.
Ok.
Rapiton et puis snack.com encore de Zouk Edition.
Ouais, donc c'est trouvable.
Ouais, c'est trouvable. Ouais. Et c'est tout en couleur et très belle qualité de papier d'ailleurs.
Et à partir de quel âge alors?
C'est à partir alors, de 10 ans.
Voilà, c'est dès 10 ans, mais je sais qu'il y a des enfants à 7 ans qui y jouent. Ouais. Puis à 90 ans, il y a des enfants de 90 ans aussi qui jouent.
Ok. Ok. Il n'y a pas d'âge.
Bah, je te dis à une prochaine, Gianni.
Merci, Gianni.
Bah,
ouais.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
À plus.
Salut.
Et puis, Sébastien, donc ton choix musical, une chanson d'amour.
Voilà, une petite chanson d'amour pour les auditeurs.
C'est le printemps dans Imaginaire sur Radio G avec Tête Macrée et son amoureuse Kid Laroi. Un petit peu la nouvelle Britney Spears, cette jeune fille-là. Dans l'imaginaire.
Quoi, l'autre est ancienne.
Patrice, attends 2 minutes. Oh, ouais, on va dire sa carrière est peut-être un petit peu derrière. T'as un nouveau générique, du coup.
Ben, je ne vais pas vous parler de Mickey, de Walt Disney, ni des Looney Tunes.
On a fêté les 100 ans l'année dernière, je crois.
Mais il se trouve qu'il y a une séquence dans ce film, Mickey 17, là, de Bong Joon-ho, qui est vraiment très humoristique, avec des tas de petits extraterrestres qui grouillent partout et sur une musique façon dessin animé.
Très bien.
C'est pour ça que c'était un petit clin d'œil. Et donc, ce dernier film qui était de Bong Joon-ho, à qui on doit aussi
Parasite,
Père de Neige, Parasite, et puis d'autres.
Son super film de monstre aussi, de Host.
Voilà. Et là, son dernier, là, Mickey 17, est un film de science-fiction. Donc, c'est une variation sur un thème classique, la duplication d'un individu. Bon, on a vu ça des tas de fois. Pas de clonage ici, mais on a trouvé le moyen de réimprimer les êtres humains avec leurs souvenirs. Donc, le procédé est interdit sur Terre, mais dans l'espace, on va pouvoir s'en donner à cœur joie. Donc, Mickey Barnes, notre héros, est expandable, comme on dit en mot français, c'est-à-dire, en fait, remplaçable. On va donc pouvoir lui faire subir tous les tests possibles. Du style, combien de temps résiste-t-il aux radiations dans l'espace? Y a-t-il un virus mortel sur la planète qu'on veut coloniser? Bon, bien sûr, la réponse est oui, hein. Et à chaque fois qu'il meurt, on le réimprime pour de nouvelles expériences scientifiques.
Et voilà. Il a toujours le souvenir des erreurs qu'il a commises.
Voilà, bah on arrive toujours à lui réimplanter ses souvenirs comme il faut. Et d'ailleurs, il y a une question récurrente, la petite parenthèse, c'est que tous les gens lui demandent, mais qu'est-ce que ça fait de mourir? Ça, c'est une question un peu à la fois humoristique et dramatique qui revient tout le long du film.
Un running gag.
Ouais. Vous l'aurez compris, on va suivre donc les aventures de la 17e réimpression de Mickey Barnes, joué par Robert Pattinson. C'est un personnage plutôt mou. sans grande envergure et qui se laisse volontiers mener par le bout du nez. Bon, je vous raconte pas toute
l'histoire. Tant mieux, parce que je lui demande de faire.
Mais vous vous en doutez, le destin de ce 17e Mickey va s'écarter de ce à quoi on pourrait s'attendre. Le film démarre plutôt lentement. Moi, je trouvais que ça m'a pas gêné, mais je veux dire que il y a un humour noir un peu forcé, il y a la voix off et désabusée de Mickey, il y a des flashbacks qui sont quand même astucieusement placés pour que la situation devienne vraiment claire aux yeux du spectateur, parce qu'évidemment, il est pas là dans ce vaisseau d'exploration spatiale tout à fait par hasard. Puis, à la suite d'un coup de théâtre, que révèle la bande-annonce, mais que j'avais complètement oublié.
Ben non,
justement, je vous le redis pas. Mais moi, ça m'a permis d'être vraiment surpris. Donc, à la suite de ce coup de théâtre, le rythme du film s'accélère et on oscille jusqu'à la fin entre le suspense d'un scénario bien construit et l'humour décalé toujours présent. Donc, par exemple, on a le chef de la mission de colonisation joué par Mark Ruffalo, qui a fait aussi Hulk dans les Marvel et puis d'autres films plus sérieux. C'est vraiment une caricature outrancière du dictateur mystique, mégalomane, grandiloquent et d'une bêtise à faire peur. Alors c'est vraiment très outré. Sa femme, qui est l'actrice Toni Collette, semble avoir plus la tête sur les épaules si l'on accepte son goût immodéré pour les sauces exotiques, voire extraterrestres. Alors, autour de Mickey évolue donc une galerie de personnages souvent outranciers, très bien caractérisés, qui ont tous leur place vraiment dans le film, qui s'insèrent parfaitement dans le scénario. Donc ça c'est très agréable parce que ça a beau être outrancier parfois, c'est jamais gratuit. Et ce film est quand même loin d'être seulement une comédie. Parce que Bong Joon-ho pose avec justesse des questions sur la mort, sur la relation avec des êtres incompréhensibles, sur les travers de l'humanité, des questions qui, sans être vraiment originales, donnent à ce film vraiment plus de profondeur qu'il n'y paraît au premier abord. Et en plus, la réalisation est vraiment soignée. On est dedans, il y a forcément des effets spéciaux, des trucages, tout ce qu'on veut, mais on s'en rend pas compte, je dirais. On est vraiment dedans. Donc, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer, quoi. C'est un film à voir, alors. Pour ceux qui aiment le réalisateur et puis pour ceux qui veulent le découvrir.
La science-fiction aussi.
La science-fiction tout court. Mmh. Voilà, oui.
Donc il y a un petit côté die and retry aussi, alors qu'on trouve aussi dans les livres-jeux, qui vient du jeu vidéo.
C'est un peu ça, oui, effectivement.
T'arrives quelque chose, paf, ton personnage meurt, mais t'as appris, tu sais aller à tel endroit, donc tu recommences en essayant d'éviter le piège.
Mais lui, il est complètement pris par les scientifiques qui lui font faire ci, ça, il n'a pas trop le choix. Parce qu'en fait, à chaque fois, ce qui lui arrive est différent, donc...
Tu avais connaissance du roman dont c'est tiré?
Pas du tout, non, je connaissais pas, non, mais ça m'a bien amusé. Je vais pas vous citer tous les acteurs, mais il y en a une pléthore qui sont. Il y a à la fois forcément, comme je l'ai dit, les des outranciers. Il y a des très méchants, genre mafia. Il y a des gens plutôt gentils, il y a des exaltés. Enfin, il y a vraiment toute une galerie de personnages et tous les acteurs sont vraiment bien dans leur rôle et bien, je vous en dis pas plus parce que sinon je vais vous raconter le film.
C'était un roman d'Edward Ashton, me dit Wikipédia là.
Merci Wikipédia.
Sorti en 2022 lui.
Voilà, donc pour Mickey 17.
Ouais, un autre film.
Oui, alors le deuxième qui n'a strictement rien à voir autant dans le sujet que dans l'ambiance, c'est Le Secret de Khéops. Alors c'est un divertissement historique que j'ai trouvé assez inattendu de l'actrice et réalisatrice Barbara Schulz, avec notamment Fabrice Luchini et Julia Piaton. Et c'est un truc qui se passe de nos jours, où Luchini joue le rôle d'un archéologue passionné, exalté, et qui part à la recherche du trésor de Khéops, qui se trouve être quelque part en région parisienne. Voilà. Et le scénario, alors ça c'est assez futé, parce que le scénario, il mêle habilement vérité historique et fiction. De telle sorte qu'on arrive à apprendre, enfin, pour moi qui ne suis pas tellement historien, j'ai appris des trucs, ou redécouvrir pour ceux qui connaissent des choses sans vraiment avoir l'impression d'assister à un cours, quoi. En fait, c'est un peu comme apprendre en s'amusant. On y évoque bien sûr la campagne d'Égypte de Napoléon, mais également Dominique Vivant-Denon, qui est directeur du Louvre à cette époque et qui est renommé avec humour DVD. Dominique Vivant-Denon, DVD. Par les protagonistes, j'avoue que la chasse au trésor elle-même, c'est une sorte de jeu de piste assez subtil. Qui fait effectivement appel à des notions historiques vraies et entrecoupées de fiction, forcément. Et bien entendu, on va y trouver des individus sans scrupules pour qu'il y ait un peu de suspense dans l'affaire. C'est pas du Indiana Jones. Et des séquences concernant la famille de l'archéologue. Et ça, j'ai trouvé que contrairement à certains, certaines séries policières où ils interrompent l'enquête pour les histoires de famille et trucs, et c'est gonflant, et ben là, pas du tout. C'est à la fois humoristique, ça se passe très bien, ça caractérise les personnages, ça renforce leur crédibilité, et donc c'est pas inutile. Donc c'est un film qui est loin d'être bête, très amusant, le scénario est vraiment tient la route, quoi, et il faut pas s'en priver, quoi.
Ok, super, bah merci Patrice. On continue de parler film, alors film Netflix avec The Electric State, quelques minutes sur Radio G. C'était la BO officielle de The Electric State parce que Simon Stålenhag, l'illustrateur et aussi auteur, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de textes dans ses romans graphiques, bah, il fait aussi les musiques. C'est vraiment quelqu'un qui a pas mal de talents différents, comme Gianni qu'on a écouté en début d'émission. Bon, Sébastien, toi, tu n'as pas aimé alors ce film Netflix.
Moi, c'est
des frères Russo.
C'est sans plus. Hein, après. Bah c'est l'humour, je l'ai trouvé assez lourdingue, comme un des épisodes de Transformers, j'avais été le voir pendant le printemps du cinéma, là c'est bientôt d'ailleurs, c'était Venact, une sorte de chevalier Transformers,
ouais.
Et l'humour ça passait pas du tout quoi.
Donc en fait tu t'aimes pas l'humour de blockbuster américain peut-être on pourrait dire.
Bah là c'est un humour un peu comme dans Les Gardiens de la Galaxie
mais
que
en
j'aime
même temps,
pas.
Ouais bon les frères Russo ils ont fait quelques films des Avengers.
Ouais ouais bah,
dérivés.
Après il y a quand même des personnages qui sont bien hein, des personnages
alors,
de robots.
Alors l'humour c'est un truc qu'on a reproché parce que donc c'est tiré d'un roman graphique de Simon Stålenhag qui était sorti il y a peut-être pas une dizaine d'années, peut-être maintenant. Hein. Et puis, donc il y a le jeu de rôle qui est arrivé chez Free League, même éditeur en fait, en fin d'année dernière. Et effectivement, le roman graphique, c'est plutôt déprimant. Hein. Patrice, en regardant les illustrations, là, disait, bah tiens, c'est du post-apo. Effectivement, il y a un peu ça, le pitch, c'est...
C'est du post-apo dessin animé, parce qu'il y a des sortes de...
Alors ouais, ça, c'est un truc justement, c'est du post-apo dans une Amérique... qu'a connu un genre de dernière guerre civile, si on veut, parce qu'en fait, les États-Unis ont explosé. Tous les États sont devenus indépendants et se sont fait la guerre un peu les uns les autres. Et ça a permis de développer une nouvelle technologie, en fait. Les soldats ne se sont pas plus battus les uns contre les autres. C'est une technologie, le neurocasting.
Neurodiffuseur.
Ouais, la neurodiffusion, où on met un casque de réalité virtuelle et en fait, on contrôle un drone qui est un robot qui va aller se battre à la place. Donc, il y a eu des batailles de robots contre robots. Alors, dans le film Netflix, c'est pas vraiment ça. Dans le film Netflix, c'est plutôt une... Les robots sont plus intelligents. Oui. Et en fait, ont eux-mêmes... parce qu'ils n'étaient pas assez considérés par le reste de la société, ils ont créé un peu une guerre civile, pareil, en se révoltant, et puis ils ont été matés. Du coup, il n'y a pas d'humour dans le roman graphique. C'est assez déprimant aussi. La jeune fille, l'héroïne Michelle qu'on retrouve dans le film, est recontactée par son frère, en fait, qu'elle croyait disparu, qui contrôle un drone, donc à distance, c'est un petit robot qui vient le chercher, puis qui elle va le suivre pour retrouver son frère, mais qui lui vit en fait dans le virtuel tout le temps. Voilà. Ça s'est repris un peu dans le film. Bon, voilà, je vais pas raconter la fin de l'artbook non plus, mais alors quand les fans en fait du roman graphique ont vu la bande annonce, déjà ils se sont dit oh, il y a des blagues et tout, c'est n'importe quoi. Bon, moi j'ai trouvé que c'est un peu autre chose. Ils ont pris des images et un peu la grande ligne directrice du roman graphique, puis ils ont fait leur propre film. Bon, peut-être quand tu fais le film le plus cher pour Netflix, je pense que de toute façon tu n'as pas le droit de faire un truc déprimant. Donc voilà. Puis voilà, les gens, c'est des réalisateurs qui viennent un peu du MCU et tout, donc forcément.
Oui, bah ça se ressent.
Dans le casting aussi, donc on a Chris Pratt qui nous vient des Gardiens de la Galaxie, Millie Brown, je crois, qui vient de Stranger Things. Moi, j'étais super content de retrouver Jason Alexander aussi, qui était George dans Seinfeld. Je ne sais pas si vous avez regardé cette série humoristique dans les années 90.
Ah, c'est lui.
Et en fait, c'est lui qui fait le papa, le père adoptif.
Ouais,
il est un petit peu méconnaissable, mais oui. J'ai quand même reconnu. C'est Woody Harrelson aussi qui fait la voix du petit robot, je crois, celui qui vient la chercher. Mmh. Et ça, c'est vrai, l'aspect robot, là, ils l'ont complètement développé, alors que dans l'artbook, c'est très très peu important. Et dans le jeu de rôle, c'est pareil. On nous explique là que les robots n'ont pas leur propre... Ils n'ont pas de leur propre intelligence et tout. Ça, c'est pas du tout, effectivement, ce qu'on trouve dans le film Netflix, où là, justement, les robots, c'est vraiment, effectivement, un élément très sympa du film.
Ouais, ils sont... Moi j'ai beaucoup aimé le robot là qui a mis avec Chris Pratt Earl.
Ouais.
En fait, c'est un petit robot, enfin c'est un robot qui est des fois qui devient
qui
plus grand,
un
peu comme une poupée russe,
ouais, tout à fait, c'est exactement ça, ouais.
Il devient tout petit ou
peut-être pilote en fait, il se pilote et à chaque fois sa tête s'ouvre et dedans, ouais. Il y en a un plus petit qui sort.
Il y a même un robot qui est avec une batte de baseball et tout, ou un robot même en mode football américain.
Ouais.
Et tout.
Alors moi, toute cette galerie de robots sympas, mais effectivement, on peut les trouver inquiétants à un certain moment du film. Et effectivement, dans le roman graphique, il y a plein de visages sympas. On parlait de Mickey, finalement, et ils ont des têtes un peu cartoon.
Oui.
Et en fait, sauf qu'ils sont un peu délabrés, et là, ils sont un peu inquiétants. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, moi j'ai bien aimé le personnage de la petite postière aussi, que j'ai trouvé très sympa. Cette galerie de robots m'a rappelé la galerie de robots dans Blade Runner. Je sais pas si vous vous rappelez, à peu près au milieu du film, en fait on retrouve la bande des réplicants cachés chez un créateur de robots. Et il a plein de robots. Il vit chez lui avec plein de robots. Ça vous dit rien, ça ?
Ah oui.
Bon. Ils sont plutôt sympas aussi. Ça m'a fait un petit peu penser à tout ça.
Mais d'après toi, Romain... Bah, je veux pas spoiler, mais...
Mais tu vas le faire quand même.
Est-ce qu'on peut avoir une suite?
Bah, alors là, en fait, le film vient de se planter, apparemment. Enfin, il est en ligne depuis 3-4 jours et on annonce déjà que c'est une merde et que c'est un bide. Donc, je pense qu'on a déjà dit au frère Russo, non, mais laissez tomber.
Moi, quand je vois
autre chose.
Ce roman illustré, là, enfin, j'ai l'impression, ça me fait penser à Stephen King et son clown, là. Il y a des têtes de ça va être les robots, des têtes de petits canards, d'avoir... de machin, etc. Ouais. Et qui sont en même
ils
temps
sont
très
inquiétants,
quoi.
Ouais. Voilà. Alors, ils sont un peu inquiétants, là, parce que ils sont un peu délabrés. Alors, je vous disais que, en gros, la guerre civile a eu lieu par drone interposé. Et en fait, le neurodiffusion, c'est tellement développé que et alors là, en fait, dans le roman graphique et dans le jeu de rôle, il y a une mise à jour des univers virtuels. Et en fait, le truc est devenu tellement bluffant que les gens ne font plus que ça, parce qu'ils vivent déjà dans un état qui se renomme Pacifica, là, ex-Californie, qui a du mal à se reconstruire. Un monde un peu délabré, et là, tout à coup, on leur propose, d'accéder à des univers virtuels. On peut y passer 18 heures par jour. Donc, en fait, ils abandonnent toute fonction, et on croise dès le début, d'ailleurs, du roman graphique, des gens qui sont morts, en fait, avec le casque. Ouais, mais là, c'est tellement no life qu'en fait, ils ne se nourrissent plus, ils meurent de faim, de soif.
On voit
plein de gens avec le casque sur la tête.
Dans le film aussi, parce qu'on voit abandonner quelqu'un qui est un peu comme drogué.
Drogué, et effectivement.
Avec la bave aussi, on voit des vieux avec la bave aux lèvres.
Il y a cet aspect, donc effectivement, assez peu développé dans le film, mais très développé dans le roman graphique et dans le jeu de rôle. Et dans le jeu de rôle, ils ont rajouté des règles, en fait, là-dessus. Il y a pas mal de moments où on peut choisir de mettre un casque et d'aller notamment chercher des informations sur l'équivalent de l'internet. Et en fait, si vous ratez vos GD, en fait, votre esprit se fait happer un peu par ce monde virtuel merveilleux, et vous risquez, en fait, de vous perdre. Et au fur et à mesure, on perd, en fait, le contrôle des personnages qu'on joue. Ça, c'est assez intéressant. Donc, le roman graphique, il a été traduit en France chez Aquileos, qui a traduit aussi les deux premiers romans graphiques de Simon Sontag, Tales from the Loop et Things from the Flood. Tales from the Loop, il y avait aussi une série sur Amazon qui était... Alors, ce monsieur, là, ils se sont peut-être plantés, mais là, j'ai vu qu'il était quand même producteur exécutif. Donc, je pense que il est quand même... Je vais pas trop le plaindre, à mon avis, financièrement, ça a quand même été une bonne opération. Et il a fait un quatrième artbook depuis The Labyrinthe, qui a pas été traduit, ni encore transformé en jeu de rôle, comme le fait un peu systématiquement son éditeur Frig. Voilà. On va s'arrêter là.
Agenda
vite fait, ouais.
Bon, un jeu de rôle à l'UCO le 29 mars.
On en parle.
Angers Geek Fest.
Attends.
Parce qu'on peut les renvoyer après, parce qu'on ne veut plus avoir le temps.
Ouais, c'est vrai. T'as raison, il nous reste 17 secondes.
Angers Geek Fest, c'est 5 et 6 avril, et un cycle de conférences sur l'écologie. Pour en savoir plus, vous allez sur notre site imaginaire.fr.
Voilà.
La rubrique agenda, vous avez tous les détails.
On a une belle rubrique agenda, donc profitez-en pour aller faire un tour. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines. Salut.
Salut.
Radio G. 5 FM radio-g.fr.